Cap-Cap, Jacques Lavergne, bonsoir. Aujourd'hui, Cap-Cap avec Perrine Hop. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors aujourd'hui, nous sommes avec une invitée qui est très loin, qui est au Havre, mais ça, c'est la magie du Covid, si je puis dire, si on peut dire que le Covid a de la magie, mais qui nous a obligés à travailler différemment. Donc, c'est une invitée qui, bien que jeune, a déjà eu, si je puis dire, deux vies professionnelles, la dernière étant en pleine ascension, et elle va nous narrer cette aventure. Bonjour Perrine Hop.
Bonjour Jacques, bonjour à tous, merci pour l'invitation.
Eh bien écoutez, c'est avec grand plaisir que nous allons apprendre à vous connaître parce que effectivement le Havre et Toulouse c'est très loin, mais on devrait vous connaître bientôt nationalement si ce n'est pas déjà fait, mais à Toulouse peut-être encore le nom de Perrine Hop n'est pas véritablement connu et vous y allez nous aider à le faire connaître parce que ce que vous faites véritablement en vaut le coup. Alors, Perrine Hop, ça a démarré comment? J'ai lu en préparant l'émission que vous aviez fait un Master 2 en conception et évaluation de programmes, dit APA. Je ne sais absolument pas ce que c'est, donc dites-nous, expliquez.
Alors, oui, en fait, j'ai fait un master sur Nanterre pour aider les personnes en situation de handicap en faisant un programme de rééducation ou de réadaptation selon les situations par le sport, par l'activité physique. Et en fait, j'ai travaillé dans différents domaines lors des stages, mais j'ai été embauchée en tant que prof d'activité physique adaptée dans un centre de rééducation. Et en fait, c'est de rééduquer les patients par une activité physique qu'on adapte au handicap de la personne, que ce soit un handicap mental, physique, ça peut être des enfants, des personnes âgées, c'est vraiment assez large et donc c'est une formation de 5 ans, donc c'était vraiment intéressant parce que j'adore aider les gens et c'était aussi un métier qui me plaisait parce que je ne restais pas à ne pas bouger et moi j'avais besoin de bouger. D'être en activité, c'était important pour moi et de me sentir utile aussi parce que si je pouvais amener ma petite dose à mon niveau pour aider les gens, voilà, c'était le métier rêvé et j'ai adoré travailler dans ce centre de rééducation. J'ai travaillé aussi avec des enfants malvoyants et on a fait du torball, enfin, c'est plein de sports qu'on ne connaît pas forcément. C'est vraiment super intéressant.
Vous avez fait beaucoup de sports parce que vous avez voyagé, j'ai vu aux USA, j'ai vu que vous aviez intégré la GGHB. Alors, GGHB, vous allez traduire parce que je n'ai pas su. Je crois que ça concerne la gymnastique, c'est ça?
Oui, le GGHB, c'est le groupement gymnique du Havre et banlieue. Donc, c'est un rassemblement de plusieurs clubs du Havre. Et en fait, il rassemblait différents gymnastes pour former des équipes, pour aller le plus loin possible, en fait. Et j'ai eu la chance, en effet, d'aller aux États-Unis en 2000. Donc, j'ai vu les tours. Et ça a été vraiment très marquant pour moi, l'événement qui est arrivé peu de temps après, parce que je les ai vus et j'étais encore enfant, ado. Et ça a été un grand choc pour moi. C'est vrai que d'aller aux États-Unis, c'était super, c'était extraordinaire, c'était gigantesque. Et de faire un stage là-bas, ça m'a amené tellement de choses et découvert une découverte d'un monde différent, d'une culture différente. Et c'est vrai que j'en ai un magnifique souvenir. Ça a été une expérience unique que je ne revivrai peut-être pas. Donc, c'est vrai que j'en ai Au départ, je ne devais pas y aller, en fait. Et parce que j'avais peur de prendre l'avion, je me dis, oh non, voilà. Et après, il y a eu un désistement, par exemple, un mois avant. Et là, ma mère me dit, tu sais, ça pourrait être une bonne expérience. Moi, j'aimerais bien aller aux États-Unis et tout. T'as de l'occasion. Et je me suis dit, oh oui, c'est vrai. Donc, je ne regrette pas d'y avoir été parce que
Ah, c'est
c'était vraiment
toujours,
super.
oui, les États-Unis, c'est toujours une expérience assez fabuleuse pour nous autres Européens. Et alors, donc, vous avez été dans ce centre de rééducation, vous avez aidé les autres, et puis un jour, si j'ai bien compris votre parcours, il s'est passé un événement dramatique dans votre vie, et vous êtes devenue non plus une des soignantes, mais une des soignées, c'est ça?
C'est ça, j'ai même fait la rééducation dans mon centre de rééducation, mais à un moment donné, quand j'ai été licenciée pour inaptitude, j'ai changé d'endroit parce que c'était vraiment très compliqué. Voilà, ça a été un moment difficile parce que j'ai eu un accident et ma vie a quand même basculé et je ne savais plus quoi faire à ce moment-là parce que pour moi, la vie était toute tracée. J'avais trouvé mon boulot de mes rêves, tout se passait bien, enfin. J'avais mon petit appart, ma petite vie tranquille, je faisais mon sport en plus. Et voilà, enfin, tout allait bien. Et c'est vrai que quand tout s'arrête du jour au lendemain, ça a été une période très compliquée. Et je suis quelqu'un qui me bat depuis que je suis petite. Et dans mon caractère, c'est vrai que je ne vais pas me laisser aller comme ça à ne rien faire. Et j'ai trouvé des ressources en moi pour pouvoir me relever, et j'ai trouvé la musique. On dit que c'est par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Donc, la musique est venue à moi. J'ai commencé en fait à dicter des mots sur mon téléphone avec l'aide du dictaphone. Ça a fait des premiers textes, et en fait, tout s'est enchaîné. J'ai osé franchir une école musicale, et en fait, c'est là que j'ai vu que j'aimais chanter. Je ne chantais pas quand j'étais petite, quand j'étais ado ou quoi. Mais la gym me prenait tellement de temps. C'est vrai que j'en faisais tous les jours et je ne pouvais pas me consacrer à autre chose.
Ça veut dire que d'abord, il faut avoir beaucoup d'humilité face à la vie, puisqu'on sait, et vous venez de nous le prouver, qu'elle peut basculer d'une minute à l'autre, et d'une carrière finalement, d'une vie toute tracée, tranquille, heureuse, on peut se retrouver à terre. Et là, il faut
Ouais.
savoir se relever. Donc, vous avez dû trouver des ressources en vous pour repartir, pour tirer un trait sur ce qui avait été votre formation, votre métier, votre passé, et vous dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. Mais alors, pourquoi vous êtes tourné vers la musique? Parce que vous auriez pu vous tourner vers certainement une infinité de choses. Votre handicap aujourd'hui, vous l'avez quand même dominé.
Il est vraiment quotidien et il m'handicape vraiment tous les jours. Je vis avec, mais j'espère le dominer un jour parce que c'est vrai que malheureusement, avec les opérations et les conséquences, tout ça, il y a vraiment un handicap qui reste. Je me bats pour les aides à domicile, pour les avoir à nouveau. Enfin, c'est vraiment compliqué, mais d'un point de vue moral, je suis vraiment au-dessus de tout ça et j'ai trouvé vraiment de quoi m'épanouir. Et je me dis que sans cet accident, je n'aurais pas trouvé la musique. Et la musique, c'est ce qui me fait vivre et je suis très heureuse en fait. Enfin, je
Donc
me
ça veut
dis que
dire que
c'est.
il faut savoir oui, il faut être fort moralement quand on est touché comme vous
Oui.
l'avez été, comme le sont certains, et on se sort avec la puissance de l'esprit.
Oui, je pense, parce que c'est vrai que jamais je n'aurais cru ça un jour. Enfin, on voit des cas un petit peu partout de situations qui deviennent compliquées pour certaines personnes, mais quand on le vit soi-même du jour au lendemain, alors qu'on ne s'y attend pas du tout, ça fout un coup quand même. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de savoir rebondir, de aussi peut-être avec mon caractère de ne pas me laisser aller. Et je pense que la musique, c'était en moi quelque part parce que j'ai fait du piano avant de faire de la gym pendant 2 ans, de 6 à 8 ans. Et ça a dû faire tilt dans mon cerveau, je ne sais pas. Et je ne pouvais évidemment pas jouer du piano, même si là, j'en rêverais de jouer. Mais c'est très, très compliqué. Mais en fait, c'est vrai que la musique, ça, c'est venu à moi comme ça, d'un coup. Je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer pourquoi la musique. J'ai vraiment cherché toutes les solutions, un autre sport et tout. Mais rien que d'être debout ou de marcher, c'est très douloureux. Donc, c'était vraiment limité dans les activités et que ce soit ben, le boulot, je ne pouvais vraiment rien faire.
Et donc la musique, oui, voilà, d'où vous êtes orienté. Il n'y avait pas de tradition familiale chez vous en termes de
Non.
musique et en termes artistiques non plus. Donc c'est vraiment
Non.
quelque chose, vous avez rencontré la musique, vous êtes rencontrées toutes les deux, elle vous a permis d'émerger de ce drame dans lequel vous étiez plongé.
C'est ça parce que, en fait, ça aurait été vraiment évident si j'avais une famille musicienne, mais ce n'est pas le cas. Donc, en fait, c'est vraiment comme ça, c'est venu à moi. Je ne connaissais pas à l'époque des amis dans la musique non plus. Maintenant, j'ai, bah, au fur et à mesure des concerts, tout ça, on fait des rencontres et on a des amis musiciens ou quoi, mais au départ, je ne connaissais personne.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer bien sûr d'échanger là-dessus. Vous allez nous expliquer aujourd'hui ce qu'est votre musique, mais pour que nos auditeurs se rendent compte, parce que vous n'êtes pas passé à la musique de salon, ni ce n'est pas une occupation dérivative, c'est devenu un métier et vous êtes devenue une chanteuse à part entière. On va quand même
Oui.
donner un premier exemple. Hein, on vous entendra plusieurs fois au cours de l'émission. On va donner un premier exemple à nos auditeurs. On va vous écouter dans une chanson qui s'appelle Loin. On va l'écouter d'abord et après, vous nous direz comment elle est née, cette chanson.
OK.
Loin, et c'est Périnope qui chante.
De temps en temps, Horace. Qui nous suivent à la trace, mais j'ai l'audace de tenir ma place. Je sais qu'il faut parfois laisser son ombre derrière soi pour avancer, pour briser la glace. Je t'ai dit
là, nous venons d'entendre notre invité Perrine Hope qui a chanté Loi. Alors, cette chanson, Perrine Hope, comment est-elle née? C'est votre première ou pas?
Non, c'est la première qui marque un renouveau dans ma musique, mais ce n'est pas la première. En fait, j'avais fait un premier EP il y a 2 ans environ, 2-3 ans.
Traduisez-vous.
Alors, en fait, c'est un mini-album. C'est entre le single et l'album. Donc, c'est entre 4 et 6 titres, un EP. Donc, j'avais fait ça avec mes textes, avec mes mots. Et c'était une première. Ça a bien marché, le temps de mettre tout en place, de continuer son petit bonhomme de chemin. Mais là, Loin, ça a été une explosion de bonheur avec ce titre parce que je me suis sentie libérée en la créant et je l'ai créée avec Sirius, un compositeur sur Paris. Et ça a été vraiment un moment très fort parce que la jalousie commençait à naître sur les réseaux sociaux parce que j'avais gagné un petit concours de chant. Moi, je ne suis pas du tout compétitrice dans la musique alors que je l'étais dans le sport. Mais pour moi, la musique, chacun a sa place et voilà, on est tous différents. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait de la jalousie, tout ça, je ne comprends pas. Et j'ai voulu écrire cette chanson-là aussi par rapport au jugement des gens qui peuvent émettre des sentiments alors qu'ils ne me connaissent pas. Donc, cette chanson parle de l'émancipation par la musique, malgré ce que les gens peuvent penser. Et j'incite les gens à poursuivre leurs rêves, en fait, peu importe le regard et le jugement des autres. Et je pense que cette chanson a fait du bien, non seulement à moi, mais à pas mal de personnes, parce que j'ai eu beaucoup de retours. On a créé une chanson dynamique exprès. Et vraiment, elle fait du bien, cette musique. Et j'en suis très heureuse et ça a été la première musique du nouveau CD qui vient de sortir et elle est sur toutes les plateformes de téléchargement légal et elle voyage dans différents pays aussi grâce aux plateformes, ça c'est l'avantage.
C'est une belle chose. Alors vous avez laissé avant la chanson au fait qu'il fallait que vous rebondissiez et vous vouliez rebondir à travers la musique et la chanson. Là, nos auditeurs ont pu constater que vous étiez devenue effectivement une chanteuse, sinon installée, du moins très professionnelle. Alors, le raccourci, il faut un peu nous l'expliquer. Comment vous avez mis en œuvre ce désir de chanter? Parce que ça ne s'improvise pas, puisque vous n'étiez pas du métier, vous ne veniez pas d'une famille de musiciens. Il a fallu quand même que vous vous formiez. Comment ça s'est passé? Où est-ce que vous êtes allé vous former? Où est-ce que vous avez appris à chanter? Puis après, je crois aussi que vous écrivez les textes, donc vous nous expliquerez comment c'est venu cette addiction finalement pour l'écriture musicale. Alors, vous êtes allé vous former, oui. Vous avez décidé de chanter, mais ça ne s'improvise pas. Comment ça s'est passé? Quel cheminement vous avez suivi?
Alors, c'est vrai que quand on regarde comme ça, ça peut paraître très rapide, mais c'est des heures et des heures de travail. Donc en fait j'ai été sur Paris pour faire à la base un tremplin musical, une sorte de concours, mais c'est plus sympa qu'un concours parce que en fait on parle avec le jury, il explique qu'est-ce qui serait bien de faire, nos qualités et défauts entre guillemets, enfin ce qui reste à travailler, ce qui est bien, ce qui est pas bien, enfin c'est vraiment très constructif. Et j'avais rencontré une coach vocale là-bas. Et ça a été un déclic. Je me suis dit, oh, c'est cette personne-là qu'il me faudrait. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et depuis, je ne l'ai plus quitté. Donc, c'est vrai que maintenant, on le fait des cours en visio, moins réguliers, parce que j'ai quand même progressé. Et je travaille de mon côté. Je suis assez autonome maintenant. Donc, c'est vrai que j'ai plus besoin de prendre des cours tous les 15 jours. Où c'est plus espacé, mais... Donc, j'ai rencontré des belles personnes, on va dire, qui m'ont aidée à me donner confiance parce que, évidemment, je partais de zéro alors que les gens qui chantent en étant adultes, ça fait déjà 10 ans qu'ils chantent, donc j'avais un peu de retard, quoi. Donc, c'est vrai que je me suis dit, je me suis lancée mon propre défi Et comme je fais souvent, j'aime bien me lancer des défis. Et j'ai commencé à prendre des cours, prendre confiance en moi, apprendre la technique, des outils pour travailler sa voix, tout ça. Et bien sûr, ça ne se fait pas en un an, c'est du travail continu. J'ai rencontré également une coach scénique sur Paris également, qui m'a aidée à être plus confiante lors des scènes. Savoir comment mettre mon corps avec mon handicap, comment gérer tout ça. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et ensuite, c'est vrai que j'ai commencé des petits concours de chant parce que je n'avais pas le matériel et je ne savais pas encore que j'allais faire des concerts. Mais j'avais de plus en plus envie d'être sur scène et de m'exprimer, en fait, à travers la musique. Donc, la seule solution, c'était des concours de chant pour commencer. Et mon premier petit concours de chant, ça a été vraiment une révélation quand j'étais sur scène. Je tremblais de partout, ma voix partait n'importe comment, mais j'étais heureuse. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et là, ça a été un déclic quand les membres du jury m'ont dit... T'as quelque chose sous la pédale, il me dit oh là là, toi, t'as un truc différent des autres, et puis surtout, t'as une singularité et de l'émotion à l'état pur, continue là-dedans. Donc, en fait, il y a des gens qui m'ont encouragée, des gens professionnels, et c'est vrai que tout ça, ça a fait que je suis là aujourd'hui. De plus en plus de personnes me soutiennent, et c'est vrai que comme ça, d'expliquer comme ça, c'est tellement rapide et en si peu de temps tout ce qui s'est passé, mais je pense que seul le travail et la détermination permettent d'avancer.
Vous pensez, Périne, que lorsque l'on est dans une situation de handicap physique, on a une volonté décuplée par rapport à quelqu'un qui aurait un physique qui ne lui poserait pas de problème?
En tout cas, en ce qui me concerne, oui. Parce que je pourrais soulever des montagnes, quoi, même si je ne peux pas lever les bras. Mais c'est vrai qu'on se sent peut-être diminué physiquement, mais le mental, c'est ce qui fait tout. Et du coup, on a envie de donner encore plus, de s'entraîner encore plus pour être le mieux possible. Et je pense que oui, ça aide.
Vous avez, au début, vous avez chanté quelles chansons? Les chansons des autres, j'imagine.
Oui, au début, je faisais des reprises. Alors, j'ai été inspirée par Julie Zenati et notamment la chanson « Si je m'en sors ». Pas la plus évidente, hein?
Non, pas vraiment.
Et c'est celle-là que j'avais chantée lors d'une masterclass avec Karim Medjeber, le pianiste de Patrick Fiori. C'était vraiment une superbe expérience en piano-voix et... ça a été un autre déclic aussi qui s'est passé à ce moment-là et qui m'a aidé à évoluer encore plus dans la musique, quoi.
Assez rapidement, vous vous êtes dit que vous alliez écrire vos propres textes.
Oui.
Comment c'est venu ça? Vous portiez déjà, vous aviez de l'inspiration, vous aviez envie d'écrire, d'exprimer déjà un certain nombre de choses?
Oui, alors en fait, c'était une période tout de même compliquée, même si je commençais à exprimer à travers la voix des choses, j'avais besoin de dire des trucs que je ne pouvais pas dire parce que je suis quelqu'un qui garde tout en moi et aussi je suis pas du genre à me plaindre des douleurs, de tout ça. Donc, j'avais besoin de m'exprimer et mes premiers textes ont été une sorte de thérapie pour moi. C'est vrai qu'on dit que la musique est thérapeutique, mais dans mon cas, ça a été vraiment, c'était ça, quoi. Donc, j'avais écrit une chanson, la première, c'était Le Pantin, celle que j'avais finie, et c'est un petit pantin, c'était tout en métaphore qui se trouve perdu dans ses fils et qui ne sait pas comment s'en sortir. Donc, c'était plus mélancolique, mes premières chansons. Et aussi, j'ai appris à utiliser un logiciel de MAO, musique assistée par ordinateur, pour pouvoir créer aussi la musique. parce que je ne connaissais aucun compositeur à la base.
Et là, vous n'êtes pas musicien, vous ne jouez pas d'un instrument, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Vous aimeriez aimer jouer du piano, mais bon, c'est quand même complexe le piano. Comment on arrive à créer une musique sur des paroles alors qu'on ne sait pas composer?
Alors, a priori, j'ai l'oreille musicale et les 2 ans de piano que j'ai fait étant petite m'ont beaucoup aidée. Donc, c'est vrai que je me suis aussi formée sur Internet. Il y a des formations pour ça, enfin, sur les logiciels, mais également j'ai acheté des livres sur le piano, sur le solfège, tout ça. Et c'est vrai que j'aime bien m'intéresser à des choses qui me plaisent et apprendre. Donc, ça m'a beaucoup aidée pour essayer de composer. Voilà.
Comment on écrit une chanson? On a une idée, on veut exprimer quelque chose. Après, il faut mettre des mots, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un rythme. Comment, c'est long pour vous? C'est compliqué ou ça coule de source?
Alors, ça dépend des chansons. C'est vrai que ça peut être très instinctif au niveau du texte, mais souvent, vu que je suis perfectionniste, je m'y reprends à... Beaucoup de fois, il me faut au moins 5 brouillons pour avoir une version qui me plaît et pour avoir une version finale. Ensuite, c'est vrai que la musique, c'est plus difficile pour moi de la créer, non seulement par le handicap avec les bras, mais aussi je n'arrive pas à faire tout sur le logiciel au niveau du rythme, tout ça. Je ne connais pas encore par cœur le logiciel, même si j'en apprends tous les jours et j'y arrive de mieux en mieux. Cubase, c'est quand même un logiciel professionnel compliqué pour les ingénieurs du son. Donc, c'est vraiment super intéressant, mais je ne peux pas faire ce qu'un ingénieur du son fait. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je me suis entourée pour ce deuxième EP d'un super compositeur qui m'a beaucoup aidée. Donc, voilà.
Je vais dans la semaine avoir une autre invitée, ce sera une autre chanteuse, elle n'est pas du tout dans votre registre puisqu'elle est soprano colorateur, c'est tout à fait autre chose. Je voudrais vous lire ce qu'elle a écrit et vous me direz comment vous le vivez. D'accord. On n'est pas chanteur, on le devient. Avoir une voix séduisante et savoir chanter juste ne suffit pas. Il faut surtout beaucoup de travail pour maîtriser les notes et la puissance de sa voix. Pour préserver son outil de travail, il faut respecter une hygiène de vie draconienne. Pas d'alcool la semaine précédente, concert, pas de cigarettes, pas d'aliments acides qui abîment les cordes vocales et surtout s'hydrater beaucoup et bien dormir pour reposer sa voix. Tous les jours, s'astreindre à chanter au moins une demi-heure. Et elle nous précise, même en vacances, il faut que je vérifie que l'hôtel que je veux réserver dispose d'une salle où je peux répéter. C'est quelque chose qui résonne en vous, ce type de...
C'est exactement ça. Tout à fait. Et j'ai la chance d'avoir une hygiène de vie plutôt très bonne, grâce au sport que je faisais avant. Et c'est vrai que c'est déconseillé de boire, fumer, tout ça. Après, si on veut une voix rauque, pourquoi pas, mais moi, j'aime bien ma voix claire et fluide, alors je ne vais pas me mettre à fumer. Mais oui, il faut une hygiène de vie. Je pense que les émotions, c'est le plus important, comme le suggère cette dame, parce que la technique, c'est bien pour ne pas s'abîmer la voix, mais l'émotion aussi qui dégage, c'est super. Et il faut toujours s'entraîner tous les jours. C'est vrai que je m'entraîne également tous les jours.
Vous êtes aussi, pardon, en termes musicaux, une sportive de haut niveau?
J'essaye en effet d'avoir une hygiène musicale. Pour pouvoir aller le plus loin, pour ne pas m'abîmer la voix, parce que c'est mon outil de travail. Et voilà, donc s'il fait froid, j'évite de sortir, parce que le froid et moi, ça ne fait pas bon ménage. Donc, toujours mettre une petite écharpe, sinon, voilà, se préserver et travailler. Ce sont les deux mots.
Alors, vous avez choisi un choix d'univers musical. Hein, quel est votre créneau, si je puis dire?
Alors, de mon côté, c'est plus la musique variété française, pop. un mélange des deux, mais avec des chansons à texte, parce que le texte, j'aime bien qu'il soit quand même mis en avant, c'est important pour moi. Et voilà, c'est la variété française. J'adore chanter en français pour pouvoir exprimer le mieux possible les émotions et que les gens comprennent direct ce que je veux dire.
Quel est le chanteur ou la chanteuse qui se rapproche le plus de vous ? Vous êtes dans un registre qui vous est très, très personnel ou on pourrait peut-être faire des rapprochements avec un autre artiste ?
C'est une bonne question. Je me suis jamais posé la question si on pouvait me comparer ou quoi, parce que c'est vrai que j'essaye pas de ressembler à quelqu'un, mais vraiment d'être dans mon univers, ce qui me plaît, ce qui me caractérise. Mais en tout cas, les personnes qui m'ont inspirée, ce sont Zazie, Julie Zenati, j'aime beaucoup Serge Reggiani, Barbara. Voilà, c'est un petit peu.
Vous avez chanté Barbara Göttingen. Je vous ai vu sur YouTube le chanter.
Oui, j'aime beaucoup cette chanson. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'ai eu un coup de cœur sur cette chanson. Et j'adore l'interpréter. Et je l'avais interprétée à différents concours de chant. Et oui, Barbara, j'aime beaucoup.
Alors aujourd'hui, vous avez déjà quand même un certain nombre de chansons, de textes. Combien au total ?
Je ne les ai pas comptées, une dizaine environ.
Vous êtes déjà produite sur scène, bien sûr ?
Oh oui, c'est vrai que je me produisais quasiment tous les week-ends avant le Covid, depuis 2-3 ans.
Donc, vous êtes produit sur quelle scène ?
Alors, vu que je suis toute seule et tout, je ne vais pas avoir une grande salle, mais peu importe. Je me suis produite dans des concerts, dans des restaurants, des hôtels. Des petites salles et des bars. Voilà.
Vous n'avez pas d'agent aujourd'hui qui
Non. Vous aide à non, non, je gère tout toute seule et c'est vrai que au moins je suis un peu libre parce que j'aimerais trouver une maison de disques, mais pour le moment les propositions, j'ai un peu comment dire. Je suis entourée et je demande toujours conseil avec les personnes avec qui je travaille et je dois suivre mon intuition. Voilà. Pour le moment, il n'y a rien de concret, mais j'ai signé un contrat, je ne peux pas en parler, pour un beau projet 2022-2023. Donc voilà, j'en parlerai quand ce sera possible, mais il y a des choses qui se débloquent pour les années à venir.
Alors, la journée type de Périnop, comment ça se passe ? C'est chant tous les jours ? Il y a des moments d'écriture, des moments de réflexion, des moments de travail purement vocal ?
Alors oui, il n'y a pas une journée qui se ressemble, qui est exactement pareille, mais elle varie entre le travail vocal, le travail de l'apprentissage des nouvelles chansons aussi. Ensuite, il y a également tout le travail promotionnel, que ce soit pour les radios, pour les médias, les journalistes, tout ça, qui me prend beaucoup de temps et avec mes bras, ça me prend le double de temps de contacter les radios, tout ça, parce que le dictaphone, il écrit souvent des bêtises, alors je dois rectifier tout ça. Mais c'est vrai que tout le travail des réseaux sociaux demande du temps dans la journée. Parce que j'aime bien également entretenir une relation avec les personnes qui me suivent pour garder un lien vu qu'il n'y a plus de concerts. Et même celles qui me connaissent et qui sont trop loin et ne peuvent pas venir, elles aiment bien avoir des nouvelles musiques, de l'actualité. Donc je travaille beaucoup là-dessus. Ensuite, l'écriture également. Je n'ai pas d'horaire, en fait, je travaille en général, tous les jours jusqu'à 1h30 du matin. En ce moment, depuis quelques mois, c'est vraiment tous les jours non-stop. Jusqu'à 1h30. Je travaille sur mon téléphone couché. Les gens ne se rendent pas compte à quel point je travaille. Mais en fait, quand on aime ça, c'est du plaisir. Donc, on ne voit pas le temps passer. Et l'inspiration, on ne peut pas la prévoir. Donc, si à 1h du matin, j'ai envie d'écrire, ben, j'écris, quoi.
Vous êtes toujours tenu de faire des rééducations, d'avoir des soins?
Oui, j'ai régulièrement de l'ostéopathie, kinésio, enfin, plein de choses, en effet, pour maintenir, même si on n'arrive pas et que les médecins sont plutôt pessimistes pour l'avancée de la rééducation. Mais moi, j'y crois toujours. Et tant que j'y crois et que je vois un millimètre que le bras se lève un peu plus, bah, je suis contente.
Alors sur scène, sur les petits films qu'il y a sur YouTube notamment, ça se ne remarque pas forcément votre handicap.
Ça peut être un inconvénient parce que c'est un handicap invisible. Si on ne dit rien forcément, je ne peux pas tenir un micro sur beaucoup de chansons d'affilée parce que le poids d'un micro, j'ai dû en acheter un autre parce qu'il était trop lourd. C'est conséquent pour moi et c'est crise de douleur assurée pendant 3 jours couché. Mais bien sûr, d'être debout, j'essaye d'alterner en concert ou d'être sur scène en m'asseyant, en tenant le micro ou en le mettant sur un pied de micro. Bien sûr, si on remarque un peu les détails, le bras droit, je ne le bouge pas du tout. Mais si j'arrive à faire oublier le handicap par la voix, par l'expression du visage ou des émotions qui traversent, ben, c'est tout gagné pour moi, en fait. Donc, tant mieux si ça ne se voit pas trop.
La période actuelle, évidemment, est assez mortifère pour la culture. Elle est très mal menée. Aujourd'hui, j'imagine que vous ne pouvez plus vous produire.
Non.
Ce doit être quand même très compliqué d'être seul au moment où on développe une carrière en surplus. Il faut garder un moral d'acier. Vous l'avez?
Oh oui, je l'ai. Il n'y a pas de souci. J'essaye de rassurer les copains, copines aussi. Mais même si pour nous, c'est pour soi-même, c'est déjà difficile. Mais j'ai toujours l'esprit positif et je sais qu'un jour, on s'en sortira. Mais de pas pouvoir faire de concert, évidemment, c'est compliqué quand ça devient son métier. Et du coup, on essaye de vivre autrement. Et la SACEM a permis de faire des live streams, des concerts en ligne, en étant rémunérée à 6 mois d'intervalle. Mais bon, c'est déjà ça, d'avoir un minimum. Et on essaye de se développer autrement et de pas rester sur ses lauriers pendant qu'on ne peut pas faire de concert, on essaye de faire d'autres choses. Et j'ai décidé de travailler les réseaux sociaux à fond pendant cette période-là pour pouvoir me développer et peut-être me faire remarquer par des professionnels sérieux. Et aussi, ben, c'est vraiment cool d'avoir des radios comme vous qui mettez en avant des artistes émergents parce que ce n'est pas le cas de toutes les radios et c'est vrai que ça fait chaud au cœur quand il y a du monde qui nous soutient et qui croit un peu en nous parce que dès qu'on est autoproducteur, en autoproduction, certains mettent des barrières parce qu'ils travaillent directement avec des maisons de disques. Et en Suisse, j'ai la chance d'être sur des radios nationales parce qu'ils ne fonctionnent pas comme ça. Et je pense que je vais aller en Suisse. Non, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'ils sont... Il y a des pays qui sont plus ouverts que d'autres, hein. C'est dingue.
Est-ce que vous avez des contacts? Ben, vous avez un maire qui s'est fait un nom et qui a permis de connaître Le Havre, M. Édouard Philippe, qui aujourd'hui a beaucoup plus de liberté. Vous l'avez rencontré? Vous avez parlé de votre carrière de votre
histoire? Il m'avait écrit une lettre. Oui, j'avais eu une lettre quand il était Premier ministre. C'est vrai qu'il m'a encouragée, mais après, voilà, il n'a pas de contact de maison de disque ou de label.
Je vous propose de vous réentendre. Alors, vous m'avez dit, j'aimerais passer même si je souris. Quelle est l'origine de ce texte? D'abord, c'est vous qui l'avez écrit?
Oui. C'est une chanson sur le harcèlement, notamment celui des femmes. Alors, je parle du harcèlement de rue et du harcèlement sur les réseaux sociaux dont j'ai subi. Voilà.
Allez, on vous écoute, Périnope, même si je souris.
Tu m'attendais à la sortie du métro, discret pour que je te voie mais pas trop. Je suis sûre que ces fleurs venaient de toi. Admirateur secret, non je ne crois pas. Tu me suis, moi je te fuis. Mais ce jeu ne m'amuse pas. Ce n'est pas de l'amour transi. Si à l'amour tu forces la main. Pourquoi tu ne comprends pas que même si je souris, je ne peux pas te dire oui. Faudra le dire combien de fois, tout en restant poli, que je ne veux pas dire oui. Tu me retrouves partout sur les mais de toi je n'ai que 2-3 photos. Je ne réponds jamais mais tu tiens bon. Je ne sais plus comment te dire que c'est non. Tu me suis, moi je te fuis. Et ce jeu ne m'amuse pas. Ce n'est pas de l'amour transi. Si à l'amour tu forces la main. Faut-il poser les bonnes questions?
Voilà, Périnope vient de nous chanter, même si je souris, sa vision du harcèlement et ce qu'elle avait à en dire. Périnope, il y a la musique, il y a, on l'a dit, la rééducation, les soins, mais vous avez aussi quelques activités sociales, bien évidemment, comme tout le monde. Notamment, vous avez chanté, bon là vous êtes resté dans votre registre, vous avez chanté pour le Téléthon.
Oui, j'aime beaucoup soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Et pour le Téléthon, l'année dernière, j'avais chanté. Cette année, je vais chanter pour la journée mondiale du cancer de l'enfant, pour lutter contre le cancer. Et c'est tous les 15 février. Ça fait 3 ans que je le fais, mais cette année, ce sera différent. Ce sera sur les réseaux sociaux. Et donc, je fais un petit direct bénévolement pour récolter des fonds pour les enfants, pour ceux qui veulent aider et soutenir la recherche. Donc, ce sera à 18h sur Facebook le lundi 15 février sur Perrine Hope, si vous voulez écouter. Et c'est vrai que ce sont des thèmes et qui me tiennent à cœur parce que le cancer, ça touche pas que les adultes et les enfants, c'est vraiment encore... C'est très touchant, quoi. Et moi, ça me touche.
Vous arrivez aujourd'hui encore à faire du sport malgré le handicap qui vous a un peu bloqué. Vous avez pu développer un autre sport ou pas du tout?
C'est très compliqué. J'avais essayé la natation adaptée, sauf que avec les aides à domicile, tout ça, c'était vraiment très compliqué parce que je ne peux pas m'habiller. Enfin, et j'avais très peu d'heures et du coup ça, j'ai dû arrêter à la fin de l'année. J'avais fait un trimestre quoi, mais ça me plaisait beaucoup même si c'était très, très fatigant parce que chacun avait son handicap, mais quand on ne peut pas utiliser du tout ses bras pour nager, ça fatigue vite. Hein. Donc, j'avais essayé ça. Mais sinon, j'aime beaucoup la danse. J'essaye de faire des petits étirements chez moi pour maintenir une certaine liberté de mouvement. Mais je n'ai pas repris vraiment le sport parce que j'essaye d'adapter les choses, mais c'est quand même compliqué.
Bon, je vous avais demandé de nous parler d'un film, d'un livre. Un livre, on y viendra tout à l'heure, d'une œuvre d'art, on va dire, en règle générale. Quel a été votre choix? Il est très particulier.
Pour le film?
Oui.
C'est Charlie et la chocolaterie.
Un dessin animé.
Oui, mais j'adore les dessins animés, en fait. Et c'est vrai que je ne suis pas trop télé ou film à la base, parce que je n'ai pas trop le temps, hein, et je préfère la musique. Voilà. Avant, c'était le sport à fond, et j'étais tellement fatiguée que je me couchais, je ne regardais pas de film. Mais Charlie et la chocolaterie, j'ai adoré ce petit dessin animé film avec l'univers étrange et particulier de Tim Burton. Et surtout la morale de l'histoire, en fait, avec les familles, le thème de la famille, j'ai trouvé ça vraiment très sympathique, comme quoi on voit que l'éducation parent-enfant est très importante. Et je pense que tout le monde connaît un peu ce film, je ne vais pas raconter l'histoire, mais on voit les blessures familiales qui peuvent exister. Et là, j'aime beaucoup quand le petit garçon finalement choisit sa famille plutôt que toute une chocolaterie que les enfants rêvent. Et voilà, ça m'a beaucoup marqué, ce film.
C'est important, la famille, pour vous?
Oui, bien sûr, c'est très important. Et c'est un grand soutien dans les périodes difficiles, notamment. C'est vrai que je n'aurais pas ma famille pour m'aider pendant que je n'ai pas les aides à domicile. Je serais bien embêtée. Et de toute façon, j'ai toujours une relation avec la famille. C'est un soutien inconditionnel, en fait. Mes amis également. Et la blessure m'a permis de faire le tri dans les amis. Et maintenant, j'ai que des vrais amis. C'est génial.
Bon, c'est bien de voir le verre à moitié plein, puisque vous voyez quand même beaucoup d'aspects positifs, c'est aussi votre force de caractère. Vous avez une journée particulière qui vous a, ou un événement qui vous a particulièrement marqué dans votre vie?
J'en ai plusieurs. C'est vrai que la rencontre avec Julie Zenati, ça a été un beau cadeau de la vie, grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs. J'avais fait un petit appel en partageant une reprise d'elle et qui a été un peu partagée partout, et ça n'a pas été dans l'oreille d'un sourd, et on m'a fait rencontrer du coup Julie Zenati. Ça a été très émouvant, et c'était très marquant pour moi parce que c'est une artiste qui m'a beaucoup aidée à me relever avec ses chansons et à me dire que c'était la voie qu'il fallait que je prenne au niveau de la musique. Donc oui, ça a été un moment particulier. Et un autre moment, si je peux en dire un deuxième, ça a été lors de ma carrière de gymnaste, entre guillemets. J'en ai fait quand même pendant 19 ans, donc c'est vrai que ça a été une grande partie de ma vie. Et lorsque nous avons été championne de France en équipe, en Euroteam, et aussi à Cholet, au podium, qu'on ne croyait pas et qu'on a gagné à un dixième près, c'était la folie, quoi. Donc, des souvenirs magnifiques de joie, de partage et de bonheur partagé en équipe, c'était vraiment super.
Vos amis sportifs de ces équipes, là, vous avez, j'imagine, toujours des contacts avec eux. Comment
ils
voient l'évolution de votre carrière?
Ben, en fait, ils sont impressionnés. Mais en même temps, ils m'ont dit « Oh, j'ai toujours cru en toi. Tu vois, je te l'avais dit et tout. Bientôt le zénith, machin. » Je fais « n'importe quoi. » Mais c'est vrai que quand je regarde le chemin parcouru, je partais de rien et j'avance plutôt bien d'avoir été... un petit coup de cœur sur Énergie, d'être passée sur France Bleu, tout ça, ben, ça m'a fait bizarre il y a quelques mois quand on m'a dit « Oh, je t'ai entendu sur Énergie ». Ah bon, j'étais pas au courant. Donc oui. Non, c'est cool.
Les réseaux sociaux vont peut-être vous permettre, alors s'il y a le pire et le meilleur dans les réseaux sociaux, souvent plus le pire que le meilleur d'ailleurs, mais enfin bon, il faut écrémer. Vous pensez que c'est aujourd'hui, pour un artiste émergent, c'est une chance de pouvoir jouer sur les réseaux sociaux, s'en servir, rebondir dessus, communiquer?
Oui, je pense que c'est un moyen de communication très important qu'il ne faut pas négliger. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, je le développe le mieux possible. Certains artistes se sont fait repérer sur la toile. Après, peut-être en boostant leur communication ou en boostant les vues. Ça, je n'aime pas. Je préfère rester authentique et avoir des vraies vues. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en effet, les réseaux sont très importants. Et les gens partagent plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'on a des contacts comme ça qui se font. Et après, surtout dans cette période compliquée où il n'y a pas de concert, c'est vraiment important de mon point de vue.
On vous écoute sur un troisième morceau.
D'accord.
Alors, vous aviez choisi, je vous ai laissé le choix puisque je ne connais pas toute votre discographie. Vous avez choisi « Couleur d'argent ». Parlez-nous un peu de cette couleur de l'argent. C'est la couleur de l'argent ou c'est un autre argent?
Non, c'est mon lapin. Alors en fait, Couleur argent, c'est une chanson que j'ai voulu mettre en avant pour mon lapin qui me soutient depuis 5 ans. Je l'ai eu à la période la plus compliquée de ma vie et il a été d'un grand soutien inconditionnel avec tout l'amour qu'il a pu m'apporter et qu'il m'apporte encore aujourd'hui. Et j'ai voulu lui dédier cette chanson pour tous les animaux, tout ce qu'ils peuvent nous apporter avec leur amour inconditionnel. Donc dans cette histoire, je raconte notre rencontre et après, voilà, tout s'enchaîne avec des jeux de mots. Vous allez découvrir tout ça. Voilà, sur une balade, c'est la chanson douce du CD. Les autres sont plus pop, mais là c'est vraiment une petite balade, chanson d'amour qui fait du bien et j'adore.
Allez, on écoute Couleur d'argent.
Je me souviens de ce jour qui m'enfermait chez moi. Mais cette fois, le destin était là sans me poser de lapin. Je ne m'attendais pas à te voir devant moi. On s'est effleuré un instant. On a figé le temps. T'as rendu mon cœur battant. J'ai vu en toi le plus beau des hasards, couleur argent, petit maladroit mais charmant, émerveillé, Alice dans le terrier. Je suis tombée, mais tu as su me dans ces jours où je n'attendais plus rien. T'as tout changé, comme si les saisons n'étaient que d'été. Je ne m'attendais pas à t'avoir près de moi. Restons encore pour un instant, on va figer le temps avec nos deux cœurs battants. J'ai vu en toi couleur argent, petit malade.
Voilà l'histoire du doudou de Périnop, c'est un peu votre doudou, le lapin fétiche, le lapin compagnon, le lapin qui vous a aidé et soutenu, grâce lui soit rendu. Donc de belles, bien belles chansons. Périne, on parle de livres comme toujours dans mes émissions, séquence littéraire qui d'ordinaire clôt la séquence. Alors, quel livre avez-vous choisi? La
Alors,
méthode, j'ai vu PY 314. Alors là, il va falloir que vous m'expliquiez.
en effet, c'est parce que je n'ai pas de livre préféré parce que je lis plutôt des revues scientifiques ou des livres un peu compliqués de physiothérapie, tout ça. Enfin, du coup, je voulais parler d'un livre un peu plus simple qui est important à mes yeux et que j'ai découvert assez récemment. C'est la méthode Pi 3.14. Donc, c'est Pi, c'est pour Pierre-Yves. C'est Pierre-Yves Duchesne, celui qui a écrit le livre, qui a écrit cette méthode de chant. C'est avec tous les outils qu'il a pu rassembler depuis 25 ans qu'il enseigne. Il enseigne notamment auprès de Lara Fabian, Amir, etc. Mais aussi, c'est le fondateur de l'AICOM. L'Académie internationale de comédie musicale sur Paris. Et dans cette méthode, il explique comment il voit les choses pour développer au mieux sa voix, les outils techniques, comment placer sa voix, la verticalité du son, tout ça. Enfin, c'est vraiment très, très précis en fait pour des personnes lambda et ça va leur paraître un peu spécial comme livre, mais je trouve que c'est très bien expliqué et il y a des exercices également avec tout ce qui est la prononciation et plein de jeux de mots pour bien prononcer et dicter les phrases qui, à mon goût, la prononciation c'est important lorsque l'on chante, surtout en français, pour bien s'exprimer. Et c'est un livre qui est très bien fait et je le recommande pour tous les chanteurs.
On va
Voilà.
rappeler le titre, la méthode PY 3.14 de Pierre-Yves Duchesne, comme vous l'avez rappelé, qui est notamment le coach vocal de Lara Fabian. Alors moi, je vais vous parler d'un autre livre, et ce n'est pas du tout le même registre. C'est un livre qui a été écrit par un homme que j'aime bien, qui s'appelle Serge Joncour, qui est connu. Ça s'appelle Nature humaine, et il a eu cette année le prix Femina 2020, un prix Femina tout à fait mérité. Dans ce livre extrêmement sympathique et qui se lit avec grand bonheur et grande facilité, eh bien, il nous parle du Lot d'abord, puisqu'il a écrit Serge Joncour, je crois, ne doit pas être très très loin de moi, et il habite dans le Lot, et il a écrit une histoire qui remonte à plusieurs générations dans lesquelles il décrit la vie d'une famille lotoise avec ses trois sœurs, un certain Alexandre qui a grandi avec ses trois sœurs et puis qui va se retrouver dans les derniers jours de cette vie paysanne. On va en parler de l'homme, on va parler de la nature, on va parler des relations qu'il a pu établir effectivement avec cette campagne lotoise. Et Serge Joncour va orchestrer presque 30 ans d'histoire où se répondent jusqu'au vertige, comme le dit la quatrième de couverture, les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives qui ont jalonné la fin de ce 20e siècle et qui a percuté de plein fouet une famille française, une famille campagnarde, une famille lotoise, où effectivement j'ai pu aussi le vivre et le constater. La vie a beaucoup, beaucoup évolué. Donc c'est un livre très attachant. Serge Joncour, Nature humaine, et c'était chez Flammarion, bien sûr, notre prix Femina 2020. Je ne suis pas un amateur forcené de prix, mais c'est vrai que cette année, et le Goncourt, dont j'ai eu l'occasion de parler ici, et le prix Femina ont été attribués à des auteurs qui le méritaient absolument. Voilà. Voilà, Périnope, nous allons arriver au bout de nos échanges. Hein, 60 minutes, 1 heure, ça passe très très vite.
Déjà.
Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter aujourd'hui? De trouver un agent, de trouver une maison de disques?
Après, oui, j'aimerais bien, mais c'est vrai que parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc,
ah oui, surtout dans ce milieu où il y a beaucoup quand même de pièges, parfois des requins.
J'ai vu déjà, oui, j'ai vu déjà pas mal de choses, mais pour l'instant,
des gens de
je
valeur,
les ai vus.
Quand même, hein.
Donc voilà, quelqu'un de valeur, comme vous dites, qui puisse m'amener encore plus loin pour faire des... J'aimerais beaucoup faire des premières parties. Et voilà, ça pourrait m'amener d'autres choses par la suite. Avoir la chance qu'on me laisse faire des premières parties, ce serait vraiment génial. Et c'est un rêve.
Mais qui va se réaliser, soyons certains, ça va se réaliser.
Merci.
Est-ce que vous pouvez redonner la date de votre concert que vous avez évoqué tout à l'heure?
Oui, c'est le lundi 15 février à 18h.
Lundi 15 février à 18h. Sur Facebook?
Sur Facebook, sur ma page professionnelle Perrine Hope.
Voilà. Perrine Hope, merci, on vous a découvert, on vous a entendu. Pour ma part, j'ai apprécié, je suis sûr que nos auditeurs en feront de même.
Merci.
À bientôt et on vous réentendra de toute façon puisque nous vous avons mis dans notre bande musicale, donc on vous retrouvera sur Esprit Occitanie et certainement bientôt un peu partout ailleurs. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique et à la réalisation Yanis Boudin. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur le site de la station. Bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt pour un nouvel ou une nouvelle invitée, une autre aventure, un autre monde. Ce sera pour la semaine prochaine. Bonne
merci.
Semaine à toutes et à tous. Au revoir Perrine.
Au revoir, merci beaucoup.